RMC.
PLM, tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Bon, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC, Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Nicolas Villas.
Ludovico Braillac, Jonathan McCarty, Kevin Diaz est avec nous également ce soir, on le rappelle, consultant sur RMC Sport, il nous fait la Première Ligue, la Liga Portugaise, entre autres, la Coupe d'Europe aussi d'ailleurs, je l'ai pas dit mais...
La Champions League.
La Champions League notamment, pas la Ligue Europa toi.
Si, si, la Ligue Europa aussi.
Bah si.
J'ai fait beaucoup les matchs d'Arsenal.
C'est vrai ?
Avec un bon Matteo Guendouzi.
C'est vrai qu'il est pas mal. D'ailleurs, tiens, j'ai pas donné le résultat. Je vous le rappelle les résultats de ce soir, parce qu'il y a l'équipe de France Espoir qui jouait face à l'Espagne en amical. Il y a eu un partout. Mateta a égalisé pour les Français à 10 minutes de la fin. Et sinon, les autres résultats, 2-2 entre l'Allemagne et les Pays-Bas. On y revient dans quelques secondes. Les Pays-Bas qui sont qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations. On rappelle que les Pays-Bas devaient perdre pour que la France se qualifie pour le Final Four. Les Allemands menaient 2-0 dans ce match et finalement, ils ont laissé filer les Néerlandais. 2-2 dans cette rencontre. La République tchèque dans la Ligue B a battu la Slovaquie 1-0. 0-0 entre le Danemark et l'Irlande dans la Ligue B. Et du coup, c'est le Danemark qui est en tête. Dans la Ligue C, Bulgarie-Slovénie, un partout. La Norvège a battu Chypre 2-0. La Norvège en tête de ce groupe avec 13 points. Dans la Ligue D, 0-0 entre Andorre et la Lettonie. La Géorgie a battu le Kazakhstan 2-1. Et puis dans la Ligue D, toujours 2-2 entre le Liechtenstein finalement et l'Arménie. Et victoire 4-0 de la Macédoine face à Gibraltar.
Ok. Je peux dire un dernier petit mot. Premier après, j'arrête. Sur Garcia. C'est juste pour Ludo. Quand je le repensais, ça jouait, je sais
non,
ce que je voulais
pas,
dire.
Non, non, non.
10 secondes. Tu sais, quand on parle d'erreur tactique, pour moi, la plus importante, c'est, donc c'est vrai que Mitroglou et Germain sont pas au niveau. Mais à chaque fois, ce que je constate, c'est que dans les matchs où faudrait mettre, Valère Germain, c'est-à-dire les matchs où
tu veux parler des attaquants.
Il met Mitroglou. Ouais.
Bon, on en parle après, alors. On écoutera Rudy Garcia dans quelques instants. On l'écoutera juste après.
Ok.
On reviendra sur le dossier du grand attaquant. Vous écouterez Rudy Garcia, qui était l'invité de Breaking Sport ce soir. David Lortolari est avec nous. Salut, David.
Allô, Freunde. Salut. Salut messieurs, salut à tous.
Et bah t'es où?
Pas loin.
N'importe quoi. Ouais, ça t'es où?
Pas loin.
T'es pas en plateau, tout beau, tout maquillé, tout habillé.
S'il y a un peu d'écho messieurs, c'est parce que ce soir à Gelsenkirchen dans le stade de Schalke, bah il y avait pas un stade plein évidemment parce que on l'a dit, on le répète, il y a quand même une petite fracture, un petit désamour, on en parlait hier soir dans l'after entre cette équipe d'Allemagne et son public. Hein.
Très bien. On rappelle que l'Allemagne était reléguée en Ligue B de cette Ligue des Nations, quoi qu'il arrive. Il y a la Croatie, d'ailleurs, également, qui est reléguée en Ligue B. Il y a des belles nations qui y seront. On rappelle que, du coup, le Portugal, l'Angleterre, la Suisse et les Pays-Bas sont qualifiés pour le Final Four. Comment tu l'as trouvé, l'Allemagne, ce soir, David? On rappelle, hein, elle menait 2-0 après 20 minutes de jeu. Et finalement, il s'est passé quoi? Elle a lâché le match?
Alors, simplement, très très vite, il y a eu les joueurs qui se sont exprimés après le match. Là, le sélectionneur est encore en train de s'exprimer aussi chez nos confrères de la télé publique en Allemagne. Certains parlent d'agacement, de s'être fait rejoindre de 2-0 à 2-2 dans les 10 dernières minutes. D'autres parlent de déception. L'agacement pour les joueurs, la déception pour l'entraîneur. Ce qu'on a vu, clairement, sur ce match-là, c'est que l'Allemagne d'avant, l'Allemagne quadruple championne du monde, aurait mené 3-4-0. Ne serait-ce qu'en première période, avec les occasions qu'elle s'est créée, et puis ce serait été terminé. Or, là, avec évidemment cette fragilité qu'elle a aujourd'hui et la reconstruction qu'elle a mis en place, mais qui va prendre du temps, le sélectionneur l'a encore répété à l'instant, évidemment, tu mènes 2-0, tu commences la deuxième mi-temps en étant un peu moins enclin à aller chercher l'adversaire haut, à aller contrer l'adversaire, comme tu l'as fait très bien en première période, tu recules, tu as des fragilités, tu as des joueurs comme Goretzka par exemple qui sont entrés en deuxième période, erreur sans doute de mon point de vue du sélectionneur qui est pas très bien dans sa tête en ce moment au Bayern, qui lâche un ballon, ça fait un but derrière, et puis 2-2 finalement. Donc on a retrouvé aujourd'hui l'Allemagne qu'on connaît ces derniers temps, c'est-à-dire capable de très belles choses, première période, avec ces jeunes virevoltants qui vont arriver et qui vont s'installer, et capable aussi de dérailler en fin de match, clairement, avec des erreurs totalement inadmissibles à ce niveau-là.
Kevin, comment tu les as trouvés, toi, les Néerlandais, ce soir-là?
Moi, d'abord, je voudrais dire que c'est clair que c'est mon petit coup de cœur dans cette Ligue des Nations. Alors, je suis pas du tout objectif, hein, ça c'est sûr. J'ai deux enfants qui sont nés aux Pays-Bas, donc de toute façon, c'est un peu mon pays d'adoption. Mais vraiment, dans le jeu, surtout, c'est un pays qui est en reconstruction. On a parlé de l'équipe de France qui allait devoir changer, peut-être même le cas pour l'équipe d'Allemagne, voire de l'équipe d'Espagne. Petit teaser pour après dans l'after. Mais c'est vrai que cette équipe des Pays-Bas, elle a connu un trou de génération. Et maintenant avec l'avènement de jeunes joueurs comme De Jong, comme Van Dijk un peu moins jeune, mais surtout comme De Ligt, cette génération de l'Ajax d'Amsterdam qui apporte un peu cette équipe néerlandaise des Oranjeux vers le haut. C'est vrai que ça fait plaisir de les revoir à ce niveau-là. Alors dans un premier temps, il faut voir que, et on l'a vu ce soir, hein, ils se sont préparés à défendre parce que Koeman a, dans un premier temps, dans les premières semaines où il a été intronisé, a plutôt basé son jeu sur la défense, sur un bloc plus solide, un peu plus imperméable parce qu'il prenait trop de buts. Et ils savent toujours qu'offensivement ils auront toujours du talent. Il y a Memphis Depay, il y a Promesse, il y a Bergwijn du PSV Eindhoven. Donc des joueurs qui peuvent marquer des buts, ça aux Pays-Bas c'est une industrie, ils savent le faire. Maintenant des joueurs qui savaient mieux défendre, ils ont un peu changé leur système au niveau, on en a parlé aussi cette semaine dans l'after, ils ont changé leur système au niveau de la formation où ils sont passés sur un système où ils ont tenté de défendre un peu mieux, plus rugueux, plus agressif sur ces secteurs de jeu là. Et on voit qu'avec quand même Van Dijk, qui est aujourd'hui le meilleur défenseur du monde et peut-être le futur meilleur défenseur du monde, qui sera, je l'espère en tout cas, Matthijs de Ligt, ils ont réussi leur coup. Ils ont maintenant une bonne charnière. Au niveau du gardien, c'est encore, ça pêche un peu, mais en tout cas, s'ils arrivent à trouver deux bons latéraux, je pense qu'ils pourront avoir de belles années devant eux. Et on l'a vu ce soir, ils ont bien répondu dans ce match, et vraiment, je suis heureux pour eux.
Tiens, on va te reposer la question dans quelques instants, de savoir si les Pays-Bas, finalement, ils peuvent avoir un statut de favori dans ce Final Four. Il y a des nations qu'on n'attendait pas forcément, voire pas du tout, hein. La Suisse qui est qualifiée. Bon, le Portugal était dans le groupe de la Pologne, qui est pas au top, l'Italie qui est en pleine reconstruction. Et puis maintenant, les Pays-Bas qui étaient pas dans un groupe facile non plus, qui étaient pas qualifiés à la Coupe du Monde. Juste avant, David, oui. Sur quoi on se projette en Allemagne, là, du coup, là?
Alors, déjà, le statut de tête de série de l'Allemagne pour les qualifications de l'Euro est en péril. Alors, je sais plus exactement, je crois que ça dépend maintenant de deux matchs.
Il faut
encore
que la Pologne ne fasse pas aussi bien, il me semble, que l'Allemagne demain fasse au Portugal, justement.
Exactement. Alors, très important, le sélectionneur a rappelé, et je suis d'accord avec son analyse ce soir, que après ce traumatisme, le mot, il faut l'employer, de la Coupe du Monde et la nécessité de renouveler l'axe principal qui est constitué de Neuer, Hummels, Boateng, Kroos et Müller, on enlève déjà Boateng qui n'était pas là ce soir, on met sur le banc Thomas Müller qui, par parenthèse, a fêté en entrant en fin de match sa 100e sélection.
Bravo.
C'est l'un des très rares joueurs de l'histoire à avoir 100 sélections en Allemagne. On les a cités hier soir. Donc ce renouvellement-là qui passe aussi par ces joueurs essentiels de l'axe. On va enlever peut-être Hummels aussi un de ses jours, peut-être. Hein. Khedira n'est même plus appelé alors qu'il est au top, qu'il est bon avec la Juve. Et donc ce renouvellement-là, a précisé le sélectionneur ce soir, va prendre du temps. Ça se fait pas en 3 semaines, surtout que les regroupements en plus de l'équipe nationale sont rares et ne permettent pas à un sélectionneur de renouveler complètement une équipe très très vite.
Mais alors, David, tu sais ce qu'on disait avant l'année avant Coupe du Monde, où c'était la Coupe des Confédérations, on disait justement il y avait l'équipe d'Allemagne à la Coupe des Confédérations, c'était une équipe A prime. On disait qu'ils avaient une équipe A, qu'ils avaient une équipe A prime, qu'ils avaient une équipe espoir aussi qui avait gagné.
Donc il a
quand même du matos.
Il a du matos, mais c'est peut-être son défaut résiduel, le dégât collatéral de la Coupe du Monde aussi, c'est que Löw a refusé de tout changer. Il l'a encore rappelé ce soir, par exemple, ce soir, il ne fait pas rentrer un Julian Brandt qui était sur le banc, et ça aurait peut-être été un choix courageux, au lieu de rentrer Goretzka à la place de Sané, qui a été très bon pendant une heure. Voilà, donc peut-être que c'est aussi le fait d'avoir gardé ce sélectionneur qui est en poste maintenant depuis 10 plus 2, 12 ans, avec Klinsmann au début. On peut pas s'attendre à un changement révolutionnaire, et forcément, il va y avoir encore des fragilités pendant un moment. L'année 2018 est une année clairement à oublier pour l'Allemagne. J'ai pas la stat exacte, mais je crois que ça fait plus de 40 ans que l'Allemagne avait été aussi peu performante sur une année civile. C'est vous dire quand même le chantier qu'il y a aussi pour lui.
Oui. Et on rappelle, en plus, il y a une vraie rivalité entre les Pays-Bas et l'Allemagne, Kevin.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu un derby pour eux. Ils aiment vraiment ces matchs et c'est des matchs très importants. Déjà, ils étaient assez satisfaits d'avoir, avec cette victoire face aux champions du monde français, avoir éliminé, entre guillemets, l'Allemagne de ce groupe en les faisant tomber dans la poule du dessous. C'est vrai qu'ils étaient déjà très satisfaits par ça après avoir gagné contre l'équipe de France.
Mais et du coup, David, est-ce que ce 2-2 face aux Pays-Bas, il est vécu comme une contre-performance? Sachant que l'Allemagne était déjà relayée.
Non, pas vraiment, parce que on préfère. Alors on verra aussi demain un peu à froid peut-être les analyses, mais ce soir on préfère faire pencher la balance du côté de ce qui a été positif. Et clairement, il y a du positif ce soir. Par exemple, de mon point de vue, l'association Kroos-Kimmich en milieu de terrain, les deux milieux axiaux un peu défensifs, c'est bien, c'est complémentaire. Devant, on voit bien que Werner qui a marqué un très beau but, que Sané qui était impossible à suivre pour les défenseurs sur le côté, et que Gnabry. Ces trois-là, ça peut intervertir, ça peut être très bien. Donc on retient plus le positif que les soucis défensifs qu'il y a pu avoir en fin de match. Voilà, donc non, on est plutôt ce soir à chaud en tout cas, sur une analyse constructive que déceptive, quoi.
Ludo, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Je sais que vous l'avez regardé ensemble avec Kevin.
Je suis un peu de l'avis de David, dans le sens où j'ai vu déjà un beau match de football avec une équipe d'Allemagne qui a fait une première mi-temps de haute volée, et une équipe néerlandaise qui en deuxième mi-temps a eu le courage de ne pas renoncer et qui met en place ce qu'elle met en place depuis quelques temps, qui n'a pas renoncé à jouer malgré la difficulté et le pressing qui a été mis par les Allemands.
Il y a eu beaucoup de difficultés.
Donc déjà j'ai déjà vu un beau match de football, ça m'a beaucoup plu, et moi je suis assez admiratif du changement qu'est en train d'opérer Joachim Löw, parce que c'est pas évident de remettre en cause ses certitudes. Il a gagné, enfin il a performé avec cette équipe d'Allemagne pendant tant d'années que se renouveler, c'est jamais facile, et je trouve qu'il le fait de manière brillante. Alors certes, moi je pense que le problème est plus mental, parce que ça avait déjà été le cas contre l'équipe de France où ils avaient fait une première mi-temps superbe et puis ils avaient baissé de pied un petit peu. Alors est-ce que le problème est physique ou mental? Bon, à déterminer, David nous donnera peut-être un peu
ce
plus
soir,
d'explications.
Ce soir peut-être plutôt mental, effectivement, ouais. Ludo, parce que les Pays-Bas avaient 24 heures de récupération en moins. Hein.
D'accord. Et du coup, moi, je trouve que c'est plutôt encourageant, et que l'Allemagne entame sa révolution, et qui, comme tu le dis, ça prendra peut-être du temps, mais en tout cas, ils sont sur la bonne voie, et je trouve ça plutôt courageux.
Vas-y,
petite précision rapidement, Nicolas, aussi, parce que j'ai parlé de des joueurs qui évoluaient particulièrement dans l'axe, mais Kehrer d'un côté, Nico Schulz de l'autre, ça n'est pas encore exempt de tout reproche, mais c'est intéressant aussi avec ce système à trois défenseurs qui n'était plus en vogue depuis longtemps.
David, Kehrer latéral droit dans un système à trois, c'est pas un peu bizarre?
Qui ça?
Kehrer à droite dans un système à trois, c'est pas un peu... Je sais pas.
C'est moins punchy, punchy que Nico Schulz de l'autre côté. Ouais, effectivement, il apporte moins de solutions.
Ça jure un peu.
Il souffre de la comparaison. Oui, c'est sûr.
Y aurait qui comme solution à ce poste-là?
Je
faire jouer Gnabry plus bas.
Ouais, non, je pense pas. Ça pourrait être un Kimmich éventuellement, mais j'ai l'impression qu'il va s'installer, parce qu'en plus c'est ce que lui souhaite en numéro 6 ou en milieu axial. À voir. Je te ferai une réponse rapidement.
Merci.
On va accueillir Isaac, qui est supporter des Pays-Bas et qui nous a appelé au 32-16. Appelez-nous, hein, vous aussi d'ailleurs. Intervenez en direct dans l'after avec Ludo Bragnac, Jonathan Macardy, Kevin Diaz et David Lortolari. Salut Isaac.
Bonsoir messieurs.
Bon, on dit salut en néerlandais, tiens, Kevin.
Ah, oui. On dit Rouillavond.
Rouillavond? Non, mais ça, c'est Rouillavond. Rouillavond.
Bonsoir, Rouillavond.
Rouillavond, putain, qu'est-ce que c'est? On va apprendre. Oui, moi je préfère oui. Hein. Qu'est-ce que t'as pensé du match des Néerlandais, toi? Soit on rappelle les Pays-Bas qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations.
Bah écoutez, sur le match, c'est plutôt, on va dire, un petit hold-up quand même, parce qu'on a été en grande difficulté durant toute la rencontre, et il a fallu en gros ce but de promesse qui nous a relancé. Après, on voit que finalement l'équipe, depuis que Koeman l'a prise, elle est vraiment à son caractère. C'est une équipe combative qui se bat à chaque fois, et ils l'ont prouvé encore ce soir que finalement ils lâchaient rien, même quand ils étaient un peu dans le dur. On a vu que finalement, dans la difficulté, des joueurs qui ont eu un peu de mal à surmonter la puissance. Je pense à De Jong, parce qu'il n'a pas été aussi rayonnant que contre la France, mais on a vu qu'il a su finir le match, il a su également dépasser sa fonction, parce que si on voit un petit ajustement, il a fini un peu en troisième défenseur central, exactement à la fin du match, puis en essayant de se projeter. Depay également est monté un peu en puissance au fil du match, on a vu les leaders qui ont repris les choses en main, Van Dijk également, Tolier derrière, et c'est vrai que derrière, ils ont pu égaliser grâce à aussi un petit concours de circonstances, mais ça fait plaisir de les revoir à ce niveau-là, parce que il y a eu quand même de longues années de disette, et là ils reviennent bien. Déjà contre la France, on avait vu un très bon match, et là ils arrivent à aller chercher un résultat en Allemagne. C'est de bon augure, j'espère, pour la suite.
Et il faut dire que Frenkie de Jong, c'est un joueur dont on parle beaucoup en France, qu'on aime tous beaucoup, qui a beaucoup de qualité. Et je disais à Ludo avant le match que la saison dernière, il a joué beaucoup de matchs en tant que deuxième défenseur central, exact, à côté de Matthijs de Ligt. Et voilà, c'est la philosophie un peu d'un grand club néerlandais qui domine beaucoup ses adversaires, mais qui est capable, comme je l'ai dit, de faire une défense à 3, voire à 3,5, avec un De Jong qui a pas du tout le physique d'un défenseur central, mais qui était là pour apporter au milieu de terrain, pour emmener du spectacle, parce qu'à l'Arena d'Amsterdam, quand on mène 2-3-0, c'est pas assez, il faut aller marquer le 3e, le 4e, le 5e, parce que le public est là et a payé sa place pour voir des buts et du beau jeu.
Tiens, bon, on peut faire la comparaison entre le match de l'équipe de France et puis le match de l'Allemagne. Franck De Jong qui joue dans un fauteuil contre nous où il a tout le temps de se retourner pour pouvoir trouver les solutions. Là, les Allemands ont clairement mis en place un plan anti De Jong où ils ont été le presser très haut et ils l'ont empêché de jouer et ça a beaucoup pénalisé. Et c'est pour ça qu'il est peut-être reculé d'un cran pour pouvoir influer un peu plus sur le jeu.
C'est un dépassement de fonction comme disait notre auditeur et on se demandait avec Ludo, en France, puisqu'on a quand même un gros vivier de joueurs, on a beaucoup de talent, ça personne n'en doute. Qui est-ce qui pourrait être dans le profil de Frenkie de Jong? Qui est ce joueur? Alors Pogba le fait.
Pogba le fait,
mais quand Pogba n'est pas là.
Moi j'ai parlé
d'un joueur qui a ses qualités, qui a aussi ses défauts, mais un joueur qui a un peu le profil, on peut dire que, je sais pas si vous serez d'accord, c'est Adrien Rabiot.
Ah bah oui,
c'est un joueur qui a ce profil d'être.
Mais est-ce qu'il prend autant de plaisir à défendre que le fait justement De Jong? C'est peut-être ça la différence aussi.
C'est un peu lui qui a ce profil de joueur qui peut casser des lignes non seulement par une passe, mais également par une conduite de balle. Et ça, c'est une qualité.
Tolisso, un petit peu moins technique, je te l'accorde, mais dans l'esprit de casser des lignes,
casser une ligne par une conduite de balle. Parce que
il le fait Tolisso ça.
Oui, c'est ce que arrive à faire Pogba.
Alors tu disais, puisqu'on parlait de De Jong, puisqu'on en parlait un petit peu avant l'émission, toi tu disais, alors il a pas fait l'ensemble de sa formation à l'Ajax, et toi il y a une chose qui t'a frappé et qui te fait penser justement qu'il a pas été formé à l'Ajax.
Voilà,
tu le vois jouer, tu te dis, ça se voit que ce mec il a pas fait toute son enfance là-bas quoi.
Voilà, exactement. Alors ça, c'est vrai qu'il faut avoir un œil un peu plus acerbe sur le football néerlandais, sur la formation néerlandaise, mais voilà, l'Ajax c'est des formations, c'est plutôt 1-2 touches, 3 touches maximum, il faut lâcher vite le ballon. Parce que c'est le Barça, c'est le jeu en mouvement. Mais lui, Frenkie de Jong, il est formé quand même, et il arrive à l'Ajax, je crois qu'à 17 ans et demi, voire 18 ans.
C'est ça.
Et il est formé au Willem de Tilburg, qui, par la même occasion, est un petit club néerlandais, mais a quand même formé un certain Virgil van Dijk ou un autre Moussa Dembélé, l'international belge de Tottenham. Et donc voilà, c'est pour dire que tous les clubs néerlandais travaillent bien, mais ne travaillent pas forcément de la même façon, parce que, je l'ai dit, Frenkie de Jong, c'est un joueur qui aime beaucoup porter le ballon, qui fait beaucoup plus de touches de balle qu'un joueur formé à l'Ajax, on va dire, basique. Alors il a d'autres qualités, et c'est aussi pour ça qui ressort du lot en ce moment.
Mais je peux ajouter un petit...
Vas-y, Zach.
Ouais, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant à souligner, c'est que en Eredivisie actuellement, il y a quand même une montée en puissance. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis très vite à l'étranger, très jeunes, et qui se sont un peu perdus. Et on voit que c'est de moins en moins le cas. Il y a l'Ajax et PSV Eindhoven et Feyenoord également à moindre mesure qui arrivent à garder maintenant quelques joueurs, à récupérer, on va dire, des joueurs qui étaient partis en Angleterre. Et c'est vrai que le championnat.
L'exemple numéro un, c'est Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui est resté et qui confirme année après année et qui aujourd'hui est peut-être prêt pour un grand club, peut-être pourquoi pas pour l'Olympique de Marseille, Jonathan.
C'est trop cher, non?
Ça reste
d'être cher.
En tout cas, il était sur la liste l'année dernière.
Isaac, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne soirée, à bientôt Isaac. Voilà, Isaac était donc avec nous. On rappelle les Pays-Bas qui sont qualifiés pour le Final Four de cette Ligue des Nations. Est-ce que t'en fais, toi, un possible favori? Toi qui aimes bien le Portugal aussi?
Ah, moi, une finale Pays-Bas-Portugal, ce serait parfait.
Tu serais pour qui, du coup, d'ailleurs?
Je serais quand même pour le Portugal.
Communautariste.
Mais ça n'a rien à voir.
Je rigole. Enfin,
c'est un enfant du monde. C'est un enfant du monde, il a fait des enfants dans tous les pays, d'ailleurs, apparemment.
Pas vrai, ça.
Avec plusieurs femmes, il faut le préciser.
Pas vrai non plus.
Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, là. Ta femme était pas au courant.
Mais c'est vrai, Portugal, on rappelle les qualifiés pour le Final Four du 5 au 9 juin, ce sera au Portugal. Portugal, Angleterre, Suisse et Pays-Bas. Voilà, il reste un match à jouer, on le rappelle. Le match demain entre le Portugal et la Pologne va être très important pour l'Allemagne, puisque c'est vrai que David le rappelait il y a quelques instants. Mm-hmm. Si la Pologne fait mieux que l'Allemagne, l'Allemagne peut se retrouver dans le chapeau 2 pour les éliminatoires de l'Euro 2020.
C'est embêtant, hein.
David, mais il faut que la Pologne perde pour que l'Allemagne soit sûre d'être dans les têtes de série.
Voilà, exactement. Ça y est, c'est aussi ça les calculs. Hein.
Ah bah
les mecs, ils nous ont pendu un truc à l'UEFA. Je sais pas combien ils sont mis pour dire, les gars, venez, on trouve un truc de taré.
Mais tu maîtrises, toi, là. J'ai vu, là.
Franchement, la Ligue des Nations, là, le Final Four, les
Master
barrages.
Master en Ligue des Nations, toi.
Là, je suis bien, là.
Master en Ligue des Nations.
Exactement, j'ai fait que ça comme étude. David, merci d'avoir été avec nous. Tu voulais rajouter
merci
un truc
bien,
ou pas?
Merci bien, messieurs. Non, ça va. Je pense que l'essentiel a été dit. Les médias là, allemands ce soir se concentrent évidemment sur les scénarios possibles pour rester tête de série. Et c'est ce qu'on vient de dire. Il faut que la Pologne ne marque pas de points pour que l'Allemagne soit sûre de ne pas affronter un gros dans les qualifs de l'Euro.
Voilà, donc il faudra demain prier pour le Portugal, mon Lorto. Bonne soirée David, à très vite. Dans quelques instants, on sera avec Fred Hermel. On va faire le point sur l'Espagne. L'Espagne qui ne sera pas non plus dans le Final Four, puisque hier, l'Angleterre a battu la Croatie 2-1. Vous savez qu'hier, on a fait une foire aux questions avec Julien Laurence sur l'Angleterre notamment. Fredo n'était pas là, il va se rattraper ce soir. Il va nous faire un petit avis tranché sur la Roja qui est malade. Mais il garde espoir quand même le Fredo. Et il va vous expliquer pourquoi juste après ça.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ludo Bragnac et Jonathan McCarty. Kevin Diaz est avec nous ce soir également. C'est sa première dans l'After. Tiens, comment vous le trouvez, Kevin Diaz? Eh bien, on attend vos réactions, vos insultes également sur le hashtag RMC Live et sur l'application Direct Studio.
Pas forcé, les insultes.
Ah non, si, non, c'est pas obligatoire.
On y a tous droit, c'est une tradition.
Non, mais t'as dit, voilà, si tout se passe bien pour toi, en principe, demain matin, puisqu'on t'a quand même tagué, tu vois, sur le compte Twitter de l'After, tu vas te lever demain matin, tu vois, et puis tu vas avoir le bordel défilé, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là cette nuit là? Bah, c'est tous les mecs qui ont podcasté dans la nuit, tu vois, ou le matin. Voilà, c'est comme ça. Voilà, vie ma vie, mon pote. On vous rappelle donc que les Pays-Bas se sont qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations ce soir. 2-2 en Allemagne. Les Pays-Bas qui étaient pourtant menés 2-0 dans ce match. On rappelle que si les Allemands s'imposaient, les Français étaient qualifiés pour le Final Four. Eh ben non. Il y aura donc les Pays-Bas, la Suisse, l'Angleterre et le Portugal. Et il y aura pas non plus l'Espagne, parce qu'hier, l'Angleterre dans le groupe de l'Espagne s'est imposée 2-1 face à la Croatie. Fallait qu'il y ait match nul, hein, pour que l'Espagne puisse espérer se qualifier pour ce Final Four. Fred Hermel est avec nous. Bonsoir Fredo.
Ah, ma première dans l'After, oh là là, j'étais jeune, j'avais des cheveux, je me faisais pas encore insulter sur Twitter, il y avait pas Twitter d'ailleurs.
Et je t'écoutais Fred, salut Fred, moi je t'écoutais en podcast lorsque j'allais à l'entraînement aux Pays-Bas, j'écoutais l'After et j'écoutais Fred Hermel.
T'écoutais l'After quand t'étais là-bas?
C'est beau ça.
C'est gentil,
ouais.
Oh, ça fait plaisir.
C'était quoi, il y a 10 ans, une bonne dizaine d'années
maintenant. L'After a commencé, ça va bientôt faire 12 ans.
Ouais, c'est ça, une bonne dizaine d'années, du coup.
RMC, j'entame ma 18e saison. Et l'After a été créé il y a 12 ans, ouais.
T'es là, hein.
Eh ben, ouais, on est là, hein.
T'es là, mon Fredo. T'es là, mais l'Allemagne, elle y est pas, mon pote, hein. Voilà, elle ira pas.
Et l'Espagne non plus.
Voilà. Et l'Espagne non plus n'ira pas. Tiens! Avis tranché à venir de Fred Hermel. Alors, la Roja n'est pas qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, mais le Fredo, il est pas inquiet. Jingle.
Di Maria, il est tout seul! Di Maria, t'es nul! Mais t'es nul, Di Maria! Il a frappé au-dessus, Di Maria! Di Maria, tu es nul!
T'es un grand malade, Fred.
Voilà, toute la demi-mesure, ouais, la
j'étais
mesure.
J'étais jeune.
Voilà, la pondération.
Excessif. Maintenant, j'ai de la sagesse.
Ouais, c'est vrai que t'es pas excessif maintenant.
Non.
Alors, Fredo, pourquoi t'es pas inquiet, toi, pour l'Espagne qui est pas qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations?
Alors déjà, on va dire que c'est un gros échec. C'est un gros échec parce que il est évident que cette finale à 4 aurait été un petit lot de consolation assez sympathique après ce qui s'est passé au Mondial. Et puis surtout parce qu'ils avaient quand même démarré en mettant une branlée de 6-0 à la Croatie. Ils avaient gagné en Angleterre. C'est-à-dire que il y avait deux matchs, une seule victoire, ils étaient assurés. Et même en perdant leurs deux derniers matchs, un match nul, ils pouvaient encore se qualifier avec un résultat favorable. Donc vraiment, c'est ne pas y être, c'est un gros échec. De la même manière que on a vécu trois échecs successifs avec deux mondiaux et un euro totalement raté des Espagnols. Ça, c'est une réalité. On a le sentiment, oui, que l'Espagne a retrouvé sa normalité d'avant 2008. C'est-à-dire, l'Espagne est un pays de clubs. L'Espagne est un pays où la sélection ne faisait jamais rien. Elle était championne du monde des matchs amicaux, hein. C'était toujours très bien. Et puis, ça se plantait tout le temps, notamment, en général, en quart de finale, des phases finales. Mais ce retour en arrière, au niveau de la sélection, moi, me semble pas si grave que ça, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, si la Roja est malade, le football espagnol est en pleine santé. Le football espagnol, ça veut dire quoi? Des clubs qui sont sains financièrement, depuis cette très bonne politique menée par le gouvernement de Mariano Rajoy, qui n'est plus là au pouvoir aujourd'hui, le gouvernement conservateur, de Tebas à la tête de la Liga, avec cette DNCG qui est instaurée il y a 7-8 ans, et qui fait qu'aujourd'hui, le football espagnol est sain financièrement. Aussi, on a une Liga qui pète le feu. Je veux dire, les Espagnols ont gagné tous les titres européens depuis 5 ans. Il y a une domination, mais qui est hallucinante. Les clubs sont très bien structurés. Il y a du monde dans les stades sont plutôt pas mal. contrairement à ce qu'on croit, les grandes stars rêvent de venir en Espagne. Toujours. C'est pas parce que Cristiano est parti, que Neymar est parti, que c'est un football qui ne plaît plus. Non, la Liga cette année est la plus belle, la plus ouverte, la plus compétitive de ces 20 dernières années. Et puis les clubs continuent de former de très bons joueurs. Parce que pourquoi je suis pas si inquiet que ça pour l'avenir du football espagnol, en tout cas de la sélection espagnole, c'est que aujourd'hui, ok, il y a un manque de talent, c'est évident. Dans les buts, il n'y a pas Casillas, au milieu de terrain, il n'y a pas Xavi, il n'y a pas Iniesta, devant, il n'y a pas Vida, il n'y a pas Fernando Torres.
T'as quand même des bons joueurs, hein.
Il y a de bons joueurs, mais globalement, je veux dire, moi, Iago Aspas, j'aime bien, Rodrigo Moreno, j'aime bien, Derrea, bon, j'aime moins, mais c'est quand même pas du top mondial, tout ça, donc, voilà. Mais l'Espagne, aujourd'hui, conserve cette capacité à avoir deux choses. Une idée très claire des joueurs qu'ils veulent former, c'est-à-dire très complet, physiquement, tactiquement et surtout techniquement. Et puis surtout, les clubs continuent de former de très très bons joueurs. Vous voyez le petit Ceballos, là, qui arrive peut-être un peu tard. Voilà, vous voyez au milieu de terrain, il a quelque chose à dire. Sauf qu'il n'était pas, il n'est pas encore effectif aujourd'hui. Il peut pas remplacer un Busquets, un Iniesta ou un Xavi aujourd'hui.
Il a déjà montré avec les espoirs qu'il était énorme, qu'il avait un potentiel énorme.
Meilleur dernier Euro espoir, meilleur joueur de la compétition. Donc, je suis pas inquiet parce que le foot espagnol va bien, est très sain et produit encore de bons joueurs. C'est-à-dire que c'est pas le réservoir va toujours produire et c'est la raison pour laquelle à terme on reverra l'Espagne.
Moi, je suis Fred. J'aimerais te parler d'un truc. Ce qui me fascine assez en ce moment, c'est un peu la mutation idéologique. On voit toutes ces nations qui avaient des certitudes. On a été influencé par l'Allemagne pendant un moment, par l'Espagne pendant un très long. Et là, j'ai l'impression que tout se nivelle. Et je suis assez curieux de voir quelle va être la
nouvelle
prochaine
référence.
La nouvelle référence, la prochaine idéologie qui va influencer toutes les autres. Est-ce que justement par rapport à ça, l'Espagne continue de rester dans ses standards, travailler sur la possession, ou est-ce que finalement ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde avec du jeu beaucoup plus direct, on tend plutôt vers ça. On revient aux sources, on accepte plus la modernité.
Tout dépend des joueurs que tu as, c'est-à-dire que la sélection espagnole qui a tout gagné, c'était le style Barça, parce qu'il y avait les joueurs pour ça, tout simplement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une sélection qui a peut-être plus de joueurs un peu plus directs, parce que c'est un peu plus le style Real. Le style Real, c'est quand même un style de possession, mais moins absolutiste dans sa pensée.
Il y a plus de joueurs qui jouent dans des clubs différents aussi, Fred, parce que tu parlais de
ça aussi. Ouais. Ça aussi. La philosophie. En fait, je veux dire, et je te passe la parole, j'attends, mais simplement, je pense que le sélectionneur intelligent, c'est le sélectionneur pragmatique. Ouais. C'est-à-dire, Luis Aragonés, c'était quand même pas au départ Guardiola. Sauf que c'est lui, le premier qui met ensemble Xavi Iniesta.
C'est lui.
C'est pas au Barça que ça se passe. Les types, ils sont pas cons. Tu mets un sélectionneur qui est intelligent et pragmatique, il adapte son équipe aux caractéristiques et son style aux caractéristiques des joueurs qu'il a.
Et puis, moi, je te rejoins quand tu dis que t'es pas inquiet, parce que faut pas oublier qu'avant la Coupe du Monde, ils s'avançaient sur une série qui était une dynamique qui était très très positive. Et ça jouait très bien. On se régalait à les voir jouer. C'était pas stérile et cliché comme on a pu le voir par la suite. Et que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde, qui fait que ça fausse totalement l'analyse qu'on peut avoir des résultats d'Espagne de ces deux dernières années.
Mais quand même, c'est quand même trois échecs plus celui-ci, ça fait quatre
échecs. Il est dur à prendre en compte, celui-ci.
Ça correspond aussi à la fin, entre guillemets, de cette colonne vertébrale exceptionnelle qu'ils avaient, avec quand même Casillas dans les buts, Ramos piqué à leur top niveau, puis vous en avez parlé, Xavi, Iniesta, voire même David Silva en attaque.
Est-ce qu'on peut voir avec l'évolution de la Liga, Fred, avec ces petits clubs là qui commencent à se mêler à la bataille, puisqu'il nous dit que ça a jamais été aussi intéressant en Liga, est-ce que les portes de la sélection peuvent s'ouvrir justement pour des joueurs de ces petits clubs là?
Aspas, c'est un peu ça, hein. Le Celta, c'est pas
Il était déjà avant.
Oui, mais il était déjà là, mais c'est pas une équipe
Bryce qui marque hier, il joue au Celta.
Ouais.
Et voilà, non, c'est vrai que...
Je te parle de joueurs d'Alavés, de Leganés, de ces clubs-là.
Oui. Bah, par exemple, on réclame beaucoup en sélection un type qui s'appelle José Luis Morales, qui joue à Levante. Voilà. Et c'est un joueur qui...
Tiens, et justement,
Deschamps dirait qu'il a pas le niveau international.
je peux te dire que moi je connais beaucoup de clubs français qui aimeraient bien avoir un mec comme
Ouais, Rousseau, mais là jamais joué en Ligue 1, ça les intéresse pas, OK. Fredo. Juste on déconne, hein. Un mot sur Casillas. Alors Fredo, et là je vais me tourner vers toi également, Kevin, qui commente la Liga portugaise sur RMC Sport. Alors moi je suis assez halluciné, parce que quand il est arrivé à Porto, il part, ça se finit mal avec le Real, il a une première saison qui est très compliquée au FC Porto également, Casillas.
Il perd sa place à un moment.
Il est mis en concurrence effectivement au FC Porto. Et alors là, il fait la une de As cette semaine, il y a des sondages qui sont faits, les Espagnols veulent son retour en équipe nationale, il fait une super saison, c'est vrai, avec Porto, la saison dernière, celle où il est champion d'ailleurs, le Porto n'avait plus de titre depuis 5 ans, il est l'un des tauliers de cette équipe également. Est-ce que c'est possible que Casillas puisse revenir au sein de l'équipe d'Espagne, Fredo?
Il y a un vrai mouvement, parce que à l'heure actuelle, De Gea, quand il fait pas des bourdes, il fait rien. Et c'est vrai que les deux derniers matchs où l'Espagne a perdu, De Gea n'a pas, le dernier match par exemple en Croatie, il a pas fait de bourdes, sauf qu'il a rien arrêté. On demande pas simplement à un gardien de pas faire d'erreur, on demande à un gardien de faire gagner des matchs. Et c'est De Gea, mais c'est pathétique.
Il a été soutenu par Luis Enrique quand même, non?
Bah oui, bah ouais. Il va pas dire le contraire. Et Kepa, il faudra poser la question à Julien Laurence, mais d'après ce qu'il m'avait dit la dernière fois, ce que fait et ce qu'on peut voir, Kepa, il est pas mal, le gardien.
Oui, il est bien.
Qui est aujourd'hui à Chelsea. Et puis les gens se disent, mais attendez, là, il y a peut-être une transition, parce que Casillas n'a pas pris sa retraite internationale. Il était poussé dehors par Lopetegui.
Quand on voit qui revient en équipe de France, je pense que Casillas, sa carrière, peuvent revenir en sélection espagnole.
Oui, c'est vrai. Et puis je demande, à partir du moment où aujourd'hui Casillas est très bon avec Porto, où il est compétitif, où lui n'a jamais voulu partir, bah pourquoi pas? Ça me paraît pas. Alors c'est pas. Je vais pas dire que c'est probable qu'il revienne, mais ça me paraît pas impossible de revoir Casillas avec la Roja.
Kevin,
en tout cas, comme disait Nico, c'est quand même un choix de carrière alloué très intéressant, un peu comme Jérémy Mathieu. Alors à moindre mesure, mais avec le Sporting Portugal, le Français qui s'est remis en question, des grands joueurs comme ça qui se remettent en question. Jérémy Mathieu, il venait quand même du Barça. Casillas du Real, venir comme ça dans un championnat mineur, mais avec quand même la pression quand même d'un grand club, parce que les trois grands clubs portugais, voilà.
Et en plus, il y va au moment où Porto traverse sa pire disette.
Voilà, quel est l'âge de Casillas?
Il va faire 38 au mois de mai, là.
Ouais, c'est vrai que c'est bouffon.
Bah oui, c'est pour ça. Ouais, on est d'accord.
En tout cas, il est bon Casillas, avec Porto.
Parce que le numéro 2, c'est Kepa, et le 3, c'est qui?
On n'y va pas vraiment, quoi. C'est truc.
Parce que Kepa, il est pas mal quand même.
Ah, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, le Real voulait faire venir.
T'imagines le coup derrière la tête que tu lui mets au gamin derrière là. C'est-à-dire que il est derrière, il est en.
Ah, je pense que Casillas
et Nora. Bah non, on reprend Casillas qui a trop
de Casillas. Ah non, mais Nora, le temps,
c'est un tel monument que je sais pas, tu vois.
Ah non, le problème ce serait pour De Gea, pas pour Kepa, Luis Malaga. Parce que
c'était tendu entre les deux, hein. Un moment. C'était tendu entre les deux, entre De Gea et Casillas, un moment. Bah oui, c'est toi qui nous le disais.
Non, tu t'es trompé là.
Ah. Non, Casillas était tendu avec le sélectionneur.
Avec,
Il faisait pas la gueule de Réa de pas jouer.
Ah, avec Réa, tu dis, toi.
Oui. Ouais.
Non, mais tu tombes avec le Real et avec le... Non, il a jamais eu de crise en sélection. Non.
Okay.
Le problème de Casillas, c'était bien sûr au Real Madrid avec des.
Moi, j'avais une question qui touche à l'actualité du soir, mais De Ligt et De Jong, les deux Néerlandais, c'est fait au Barça ou pas?
Ah, c'est vrai qu'on en parle. Alors, il y a autre chose dont on parle beaucoup en Catalogne, c'est Dembélé, on va y revenir, mais vas-y, vas-y, Fredo.
Non, mais bon, alors après, il faut se méfier des journées espagnoles pendant les breaks internationaux.
Ouais.
il faut bien remplir.
Ça fait longtemps qu'on en parle quand même. Déjà,
non, mais c'est vrai,
ils
sont suivis. Mais bon, il y a quand même une certaine tendance à rajouter un peu quand il n'y a pas de match des clubs, quoi.
Hier, il disait que c'était fait à City, De Jong, donc tu vois, il a raison, Fred.
Ouais, on va attendre.
Pour remplir les feuilles de chou.
Alors, tiens, justement. Justement, puisqu'on est, juste avant de parler de Dembélé, on va accueillir Baptiste qui nous a appelé au 32-16, qui a une question pour toi, Fredo. Salut Baptiste.
Salut l'after, salut l'équipe, salut Fred.
Salut.
Vraiment.
Oh, ça fait plaisir.
Ah, il en reste un donc.
T'es un très bon consultant, un très bon journaliste.
Merci.
Fred, est-ce qu'il y a des jeunes gardiens qui montent en quels sont les gardiens de l'équipe d'Espagne d'espoir?
Comment t'expliquer sur le niveau des gardiens en Espagne? Parce que je l'ai déjà dit à plusieurs fois, je pense qu'aujourd'hui, entre les Espagnols et les étrangers, on a un niveau... Je crois j'avais pas fait un avis tranchant
là-dessus. Si, un avis tranchant,
un truc là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui...
Les gardiens étaient très bons.
Les gardiens du championnat espagnol sont excellents. Mais aujourd'hui, la question, c'est très clair, c'est ou De Gea ou pas De Gea. Voilà, par rapport à la sélection espagnole, et s'il n'y a pas De Gea, c'est est-ce qu'on revient vers Casillas ou est-ce qu'on met Kepa? Kepa, il a 22 ans, il me semble. Et puis il y a un jeune gardien qui monte et qui avait fait des exploits qui s'appelle Unai Simon.
Qui était d'ailleurs titulaire ce soir face à la France, lors du match amical, ce soir, partout.
Exactement, parce que Unai Simon, aujourd'hui, il est gardien à Bilbao. Il est, après le débat, alors pour vous expliquer le truc, Kepa arrive à Malaga. part à Chelsea en fin de saison. C'est Yago Herrerin qui était prêté à Leganés qui revient à Bilbao. Mais il se blesse. Et là, notamment contre le Real, tu as Unai Simon, qui est un gamin qui aurait dû être prêté à un autre club. Finalement, il est gardé à cause du départ de Kepa et à cause de la blessure d'Herrerin, et qui a fait le match de sa vie contre le Real Madrid. Donc Unai Simon, mais aujourd'hui, il y a une relève extraordinaire. Il y a une école des gardiens en Espagne qui est super bonne, surtout des gardiens basques. On se souvient de Zubizarreta, on se souvient d'Iribar, on se souvient de Darconada, qui est un magnifique gardien et qui a fait une erreur dans sa vie, c'était contre la France.
Non, mais c'était un grand gardien.
Voilà, c'est un immense gardien. Donc je dirais, en Espagne, il n'y aura jamais problème de gardien. Et c'est ça qui est terrible. C'est que, avec toutes les alternatives qu'il y a, avec l'école espagnole qu'il y a, de ne pas avoir aujourd'hui un gardien sûr dans les cages de la sélection espagnole, eh ben c'est totalement anachronique, quoi, parce que voilà, Unai Simon, on va attendre un petit peu qu'il grandisse, mais c'est un super gardien. Et puis il y a Kepa, il y a vraiment Kepa, il a 22 ans, je voudrais pas dire le connu, mais je crois qu'il a 22 ans, Kepa Arrizabalaga, hein. Il joue à Chelsea, il joue au plus haut niveau,
il est bon
et il apporterait beaucoup plus que De Gea, qui je pense est un gardien limité. Vraiment limité, et peut-être okay. Qu'il fait des choses en Angleterre, mais pas voilà. Donc pour dire à Baptiste, en Espagne il y a une relève fabuleuse, mais c'est vrai que moi le gardien qui m'a le plus impressionné ces derniers temps, c'est Unai Simon, le petit gardien de Bilbao.
Et Kepa, il a fêté ses 24 ans, c'était le mois dernier.
Ouais, mais 24 ans pour un gardien, c'est très jeune. Et puis il a tellement un visage en plus de gamin que tu vois, il faisait même moins. Mais c'est vrai que derrière, il fait encore 14 ans et demi. Hein, donc,
Tiens, et un mot également, Fredo, parce que tu disais, faut faire gaffe à la une de la presse également pendant les trêves internationales. Il y en a un qui fait la une de sport aujourd'hui, le quotidien catalan. C'est Ousmane Dembélé. Ultimatum Dembélé, titre ce matin la presse catalane. Ce journal catalan. Alors on sait que c'est tendu, c'est compliqué pour lui avec ses dirigeants, même si son agent a démenti. Le directeur sportif du Barça a démenti également en disant que tout allait bien. Alors vous savez que les Français jouent demain face à l'Uruguay. Luis Suarez a été aujourd'hui en conférence de presse. Il a été interrogé sur le cas Dembélé. Écoutez la réponse du buteur du Barça.
Ce n'est pas qu'il ne s'est pas adapté, car la relation entre nous dans le vestiaire est très bonne. Mais comme certains l'ont dit, le football est un privilège. Et je pense qu'il faut se concentrer davantage, être un peu plus responsable.
À Barcelone, il a des coéquipiers très professionnels de qui il peut s'inspirer, mais il va continuer d'apprendre avec cette confiance en lui-même qui lui permettra de réussir au Barça parce qu'il mérite d'être ici.
Ça continue de faire parler quand même, ça, Fred, en Espagne.
Bien sûr. Moi, après, Luis Suarez, je suis pas sûr vraiment que ce soit le type qui soit le plus exemplaire dans son comportement sur le terrain pour donner des coups de... Voilà, des petits coups
ouais,
de...
Ouais, mais c'est un grand professionnel, quand même.
C'est un grand professionnel, mais enfin, quand on le voit... quand on le voit sur le terrain, l'attitude qu'il a...
Ah, mais ça, c'est autre chose.
Avec les arbitres
faut pas
et tout ça.
Mais c'est autre chose.
Quand tu donnes des leçons de morale, je pense qu'il faut d'abord déjà...
Mais dans le groupe, il est nickel, Fred Suarez.
Ah, non, à l'intérieur du vestiaire, on est d'accord, il n'y a pas de
sur le terrain, c'est un petit et ça fait partie de son charme.
Oui, mais bien sûr que ça fait parler, parce que Dembélé, c'est le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du Barça. Il a été amené à Barcelone, ramené même pour faire passer la pilule du départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain. Moi, je l'aime bien et j'ai pas envie qu'il gâche sa carrière parce que c'est vraiment un mec gentil. Et j'avais fait un avis tranché. Je fais beaucoup d'avis tranchés dans ma carrière en disant il faut que les Bleus l'aident. Franchement, il faut que Deschamps s'occupe de lui, que ses coéquipiers s'occupent de lui pour lui faire rentrer dans sa tête. Vous savez ce qui s'est passé d'après le journal AS, son retard officiellement pour une gastro, c'est qu'il avait fait la fête avec des amis, mais la fête, pas la fête à la Fred Hermann, non. C'est en jouant
vidéo, non.
En jouant jeux vidéo jusqu'à 5h du mat, quoi. Donc,
Il a oublié de mettre son réveil. 5h,
c'est pas à cause des jeux vidéo, mais donc voilà. Donc, il a oublié le réveil.
C'est que t'attends les sorties de boîte.
Bah, bien sûr.
C'est à la fin du bal.
Tiens, juste moche, c'est ça. Fredo, juste pour finir, un petit mot pour terminer également, parce que c'est l'info qui a balancé El País dans la soirée. Alors Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, aurait proposé une candidature Espagne-Portugal-Maroc pour le Mondial 2030. Alors sachez que ça fait pas mal parler, ça fait un gros buzz. Alors au Maroc et au Portugal également.
Ils sont pas au courant.
Alors le ministre de l'Éducation, je te jure que c'est vrai, le ministre de l'Éducation a dit. Sûr. Je suis pas au courant, et il dit, il me semble que le règlement de la FIFA interdise qu'il y ait une candidature avec deux confédérations différentes, puisque le Maroc c'est la CAF,
oui.
Et puis le Portugal et l'Espagne c'est l'UEFA, et le Premier ministre portugais vient de s'exprimer il y a quelques minutes, et il dit, je ne commande pas des choses qui sont pas encore officielles. Donc il botte un peu en touche Antonio Costa pour l'instant, je sais que ça fait pas mal parler en tout cas ces dernières heures au Portugal, en Espagne et au Maroc. Voilà.
Alors moi, Pedro Sanchez, bon c'est le président du gouvernement espagnol qui est arrivé suite à une motion de censure il y a quelques mois. On peut dire que c'est un gouvernement qui cherche en ce moment à détourner un peu l'attention quand même. C'est pas facile pour eux. Par contre, cette idée, je la trouve géniale.
Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, je kifferais à mort. Ouais,
ah bah attends, mais je trouve parce que je trouve sincèrement que le Maroc c'est 14 km de l'Espagne hein. Ouais. Le territoire de Gibraltar c'est 14 km. Ouais, c'est-à-dire que je veux dire quand on fait un mondial en Russie, je peux te dire que Portugal, Espagne, Maroc c'est un mouchoir de porc.
Ce qui est génial c'est que ça pourrait surtout permettre à un pays maghrébin d'accueillir la Coupe du monde.
Exactement. Ceux qui n'ont pas eu de bol avec la CAN là, il y a pas longtemps.
Je pense que seul ça sera compliqué, c'est impossible.
Avec le Portugal. Et vous savez pourquoi c'est intéressant, et je pense que l'idée de Pedro Sanchez, elle vient aussi du fait que la Supercoupe d'Espagne cette année par sa Séville s'est jouée à Tanger. Et puis il y a des liens tellement forts entre
Il y a une ligue ibérique qui s'est créée l'été dernier, alors avec des petits clubs espagnols et portugais, mais l'idée fait son chemin également. Ouais, c'est le grand fantasme ça au Portugal.
Moi je trouve ça très bien et je pense que ça serait bien pour l'Espagne. Ce serait bien
pour le Maroc,
pour le Portugal, et ce serait surtout bien pour le Maroc d'avoir enfin une Coupe du Monde, quoi. Donc, a priori, c'est pas encore vraiment beaucoup dans les tuyaux. Enfin, l'idée me semble très intéressante.
Ouais. Merci beaucoup, Fredo, d'avoir été avec nous.
Bah, ravi, les
bisous,
amis.
Bonne soirée, Fredo, à très vite.
Et puis, non, mais je sors pas ce soir, je sors jamais les lundis, je vais me coucher.
Voilà, tu peux ranger le joystick.
J'en ai pas, moi, tu sais. Je suis un vieux.
Bonne soirée, Fredo.
Ciao.
Salut. Adios.
Nous reviendrons dans quelques instants. Et tiens, on va te poser cette question, Kevin. Les supporters du Portugal, on vous attend au 32-16. Comment gérer le cas Cristiano Ronaldo? On vous avait promis qu'on aborderait cette question. Fernando Santos qui est revenu une nouvelle fois sur le cas Ronaldo. Il veut toujours pas dire quand il va revenir. En attendant, le Portugal joue sans. Il joue plutôt pas mal, d'ailleurs. Allez, à tout de suite pour la suite de l'After avec Ludo Bragnac, Jonathan Macardy et Kevin Diaz.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Ludovico Bragnac, Jonathan McCarthy et Kevin Diaz sont avec nous ce soir. On vous rappelle que les Pays-Bas ont validé leur participation pour le Final Four de la Ligue des Nations du 5 au 9 juin prochain au Portugal. Le Portugal, on en parle justement, qualifié pour le Final Four lui aussi en compagnie de la Suisse et de l'Angleterre. Tiens, petites infos également, Bernardo Silva est forfait pour le match de demain. Il y a Ruben Neves et Mario Rui qui sont suspendus. Du côté de la Pologne, Lewandowski est lui aussi forfait pour ce match. Et au Portugal, on fait sans Cristiano Ronaldo. Et cela depuis la fin du mondial. Alors une absence qui est assumée par le sélectionneur Fernando Santos, et cela dès le début de la Ligue des Nations. Alors il a expliqué, Fernando Santos, qu'il y avait un accord entre le joueur, le sélectionneur et le président de la Fédé. Et le Portugal qui sans lui a fait 3 victoires et 2 matchs nuls. Et on a une nouvelle fois interrogé Fernando Santos aujourd'hui en conf de presse sur le retour de Cristiano Ronaldo. Voilà ce qu'a déclaré le sélectionneur du Portugal. Si quelqu'un a des doutes sur le fait que Ronaldo soit avec cette sélection, qu'il regarde ses postes avant et après les matchs. Quant au reste, je ne vais pas dévoiler nos conversations. Et il a poursuivi: piétiner ce thème ne fait de bien ni à la sélection ni au pays. Ça enlève du mérite à la façon dont ces joueurs ont conquis la qualification. Je comprends les questions, mais ça devient difficile de répondre toujours aux mêmes questions, a-t-il déclaré. Comment gérer le retour de Ronaldo finalement? C'est un peu la question que se posent pas mal de Portugais, Kevin.
Oui, je pense que c'est quand même assez simple. Fernando Santos et Cristiano Ronaldo, je pense, ensemble, ont décidé de laisser du repos à, voilà, peut-être sûrement d'ailleurs la plus grande star portugaise au niveau du football, voire au niveau mondial de tous les temps. Donc, il avait besoin de repos. Il a fait beaucoup de matchs. Il a été très bon. Ils ont décidé de prendre cette décision. Derrière, la Seleção a très bien joué. Tant mieux. Ils ont gagné des matchs. Maintenant, pour savoir, alors tout le monde sait bien sûr l'importance qu'a Cristiano au Portugal, mais je t'en parlais un peu avant l'émission. On va dire que Cristiano Ronaldo, c'est un peu comme le soleil de cette Seleção. Alors en été, on a l'impression qu'on a trop chaud, qui nous brûle un peu la peau, mais par contre dès qu'arrive l'hiver, ça nous manque très rapidement et on a envie de le revoir. Donc je pense que Cristiano Ronaldo, de toute façon, tant qu'il sera au niveau où il est, et on le voit tous les week-ends avec la Juventus, je pense qu'il est indispensable à la pointe de cette attaque, ou en tout cas dans cette équipe du Portugal, qui est une nouvelle génération qui émerge en son absence, tant mieux, et le Portugal n'en sera que d'autant plus fort.
Au final, la seule question qu'il y a avec le retour de Ronaldo, c'est quand? Parce que c'est vrai que finalement, c'est surtout ça. Est-ce qu'il sera là pour le début des qualifs au mois de mars? Santos répond pas à cette question. Il dit, on répondra à ça le moment venu. Et puis la deuxième, c'est ce que ça va impliquer finalement en termes tactiques. Quand il est pas là, ça revient à 4-3-3. Quand il est là, c'est plus un 4-4-2. Quoi. C'est surtout ça.
C'est beaucoup plus clair. On sait qu'il va revenir à terme.
Voilà. C'est juste
beaucoup plus clair que par exemple le cas de Lionel Messi.
Oui.
Je pense que c'est pas
beaucoup plus sain,
c'est
même
pas si clair en tout cas sur la période sur laquelle il va revenir. C'est-à-dire ça dépendra, on en discutait avec Nico, ça dépendra du groupe dans lequel tu vas tomber. Si c'est un groupe où un groupe assez simple et que tu peux faire sans lui, peut-être qu'il prendra plus de largesse et qui viendra plus tard. Je vois pas d'autres pourquoi les choses ne traînent comme ça et les choses pourraient être très claires. Donc à mon avis, c'est qu'ils savent ni d'un côté ni de l'autre, ils attendent ce que voir, Cristiano va dire.
Ils attendent quoi, c'est la question.
Ce que lui va dire, je pense que lui a pas déterminé une date précise. Eux, ils sont dans l'attente.
Je trouve que ce qu'ils font là, c'est vachement intelligent.
Moi, je trouve aussi.
Parce que c'est un joueur qui vieillit. On lui a reproché beaucoup de fois de vouloir jouer tous les matchs pour ses stats personnels. Mmh. Là, de prendre du recul pour s'intégrer dans un nouveau championnat qui a peut-être des exigences physiques un petit peu différentes. Et le mec, il a quand même fait 3 fois la finale de Ligue des Champions. Donc, c'est des saisons à combien de matchs au final, hein?
Et ça use. Pas
il prend de l'âge. Voilà, exactement. Donc, moi, je trouve que c'est très intelligent.
C'est Zidane.
Où est-ce qu'on dit que c'est pas intelligent ce qu'ils font? Je te dis juste que.
Ah, mais je te comprends pas, Ludo.
Tout le monde se complète, hein.
Mais ils se créent des problèmes. J'ai l'impression qu'il se crée des problèmes finalement.
Non, disons que c'est problème médiatique.
En étant pas clair sur le sujet, il crée justement ce flou.
Non, mais le flou, je pense que en interne, les choses sont claires.
Tu penses qu'il devrait dire voilà à tel moment on vous dira.
Mais ils ne savent pas.
Il n'y a pas de certitude. On verra au moment.
Après, le problème c'est l'amour et la passion que déclenche Cristiano Ronaldo au Portugal. C'est-à-dire que voilà. Moi, j'ai des cousins qui sont aujourd'hui à Paris et ils ont été voir le match du Portugal. Et pour eux, un match du Portugal sans Cristiano Ronaldo, même s'il y a eu la qualification, c'est pas la même saveur qu'un match avec Cristiano Ronaldo.
Est-ce que toi, comme tes cousins, portaient des sous-vêtements CR7 comme Nico?
Non.
Là, vous n'avez pas des ouais, les mecs.
J'ai pas fait.
T'as pas les chaussettes, t'as pas les caleçons.
Moi, j'ai la camisole. J'ai le maillot, mais.
Moi, j'ai pas le maillot en revanche.
Dégueulasse.
Ils sont jolis, les caleçons.
Ils sont dégueulasses.
Je n'en passerai un porté par moi, si tu
veux. Sûrement pas.
Tu vois, il y a l'odeur. Avec le parfum CR7. Avec mon parfum à moi. Enfin, bref. Voilà, quelque chose à rajouter sur ce dossier. C'est plutôt bien géré, donc, du coup. Les gars, on est d'accord. Même si Ludo préférait que la date soit plus claire.
Non, même pas la date, mais qu'ils disent simplement, on n'est pas en mesure de vous donner des informations. Et qu'est-ce qu'il crée alors, justement? T'as l'impression qu'il le dit pas franchement. Il tourne autour du pot à essayer de trouver des formules pour essayer de faire comprendre. Et tu le dis clairement et puis c'est réglé. Sinon, les gens ne te poseraient pas la question à chaque fois.
Bah, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir la date, quoi. Mm. Les médias peuvent être très chiants en Portugal aussi, hein. Pas qu'au Portugal, d'ailleurs. Tiens, on va écouter, chose promise, vous savez que Rudy Garcia était l'invité de Breaking Sport cet après-midi. Il s'est exprimé notamment sur le dossier du fameux grand attaquant. Vous savez qu'on a parlé de Balotelli, d'Aboubakar, de plein d'attaquants du côté de l'OM. Il y avait une quinzaine de noms qui étaient annoncés cet été. Et puis, il y a eu la fameuse break interview menée par Mohamed Bouafsi. Et il a répondu à la question du grand attaquant Rudy Garcia.
On n'a pas eu besoin d'un numéro 9 autre que ceux qu'on a eu pour marquer beaucoup de buts. Voilà, on a la deuxième attaque de l'histoire olympique de Marseille la saison dernière. Et cette année, on tourne pratiquement à 2 buts de moyenne en championnat aussi, offensivement. Donc, bien sûr que si Lionel Messi veut venir jouer à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille, on va le prendre, mais c'est pas pour nous. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on peut dire.
Voilà, il avait répondu à ça. La réponse était
très. Il a dit que c'était Thauvin qui était le grand attaquant.
Il a dit que
l'image de Mohamed Salah, Liverpool. Voilà.
Bon là, il est en mode Pinocchio. Là, on va pas se mentir. Voilà.
Moi,
là,
je trouve ça dommage.
Son numéro 9, il aurait voulu un numéro 9. Il a hésité sur Balotelli parce que d'un côté, son ego a cru qu'il aurait pu faire changer Balotelli. De l'autre, il avait pris des renseignements et notamment avec Lucien Fabre qui lui a confirmé que c'était peut-être pas une bonne idée. Donc du coup, ils ont un peu tergiversé sur le personnage, d'autant que le salaire était ultra conséquent. Ils ont préféré pas faire la bourde et peut-être se rattraper sur ce mercato d'hiver.
Je trouve ça dommage qu'il ait refusé par exemple Giovanni Simeone. Qu'il a refusé des noms qui lui ont été proposés, ça passait pas visiblement, mais il y avait des noms intéressants que l'OM aurait pu faire.
Source que tu tiens de?
Divan, le mec qui a proposé Giovanni Simeone.
D'accord, Divan, il dit que la vérité aussi.
Je pense que sur le coup, oui.
Bah, tu lui diras.
Oui.
Les gars, il reste 1 minute. Je voudrais juste vous donner 2-3 infos également. Suite des révélations de Football League sur l'affaire des fichages ethniques au Paris Saint-Germain, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie ou la nationalité. L'enquête a été ouverte aujourd'hui à la brigade de la répression de la délinquance contre la personne. Elle fait suite au dépôt de plainte contre X par la Ligue des droits de l'homme. Alors, le PSG a communiqué ses conclusions suite à son enquête interne en reconnaissant l'existence d'un fichage ethnique, mais en assurant qu'il n'y avait pas de cas avéré de discrimination. C'est maintenant le le Conseil national de l'éthique qui s'est saisi de l'affaire et qui doit procéder à des auditions ce vendredi. Alors Marc Westerlop et Jean-Claude Blanc devraient notamment être entendus au siège de la Fédé. Et à l'issue de ces auditions, le CNE pourra, s'il juge nécessaire, saisir la commission de discipline de la Ligue pour prononcer d'éventuelles sanctions contre le club. Voilà. Suite de tout ça. Et puis alors sachez qu'il n'y aura pas de supporters stéphanois au Groupama Stadium non plus, puisque le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de l'ASSE contre un arrêté préfectoral qui interdisait aux supporters des Verts l'accès au stade pour le derby qui sera vendredi.
Vu ce qui s'est passé sur les derniers matchs, c'est peut-être les dernières confrontations, c'est peut-être mieux.
Bon, je sais pas, mais okay, tiens, j'en profite pour vous dire vendredi derby after avec Fred Piquen qui a joué dans les deux clubs, il sera avec nous également dans l'after. Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'était bien ?
Très bien.
Bah tu reviens quand tu veux alors.
Pas de soucis.
Voilà. Merci beaucoup Ludo Bragnac.
Merci à vous.
Merci Jonathan Macardy.
Merci Nicolas Villa.
Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales, bien entendu Arthur Robert qui est là, Quentin Barber aux manettes. Et puis nous on vous dit à demain, bien entendu. Et une bonne soirée.
Allez, salut, salut.
RMC Football Show, l'After Foot.